Voici l'interview de Matin Première. Mertrouin, vous recevez aujourd'hui l'écrivain Grégoire Paulet. C'est à vous.
Bonjour Grégoire Paulet.
Bonjour.
Vous publiez votre 7e roman chez Gallimard. Le titre du roman, Tous. C'est un roman politique. C'est l'histoire d'une indignation qui naît sur une place de Madrid. Une indignation contre un système économique et politique coupé de la réalité. Jusque-là, on est plus ou moins dans le réel, on voit les événements auxquels vous faites référence, puis vous écrivez eh bien que ces indignés vont réussir tout simplement une révolution. Vous racontez l'histoire de trois amis, trois indignés qui vont prendre le pouvoir en Belgique et en France, avec comme principal programme l'établissement d'une démocratie directe et radicalement directe, où le candidat, par exemple, à l'élection présidentielle est tiré au sort, puisqu'il y avait plusieurs candidats dans le parti Tous, et finalement on va le tirer au sort, parce qu'il ne fait qu'appliquer ce que des assemblées populaires ont décidé, et chez vous, dans votre roman, ça marche. Vous dites qu'enfin, je vous cite, les gens retrouveraient un intérêt commun, quelque chose qui dirait nous. Tout le pays donnait l'impression d'être en vacances. Grégoire Paulet. C'est ça, pour vous, la démocratie directe, c'est les vacances pour la démocratie?
Alors attention, c'est un roman et non pas un essai.
Oui.
C'est d'ailleurs tout l'intérêt du livre, à mon avis. Parce que la démocratie directe, on peut imaginer que ça irait très mal dans la réalité, parce qu'effectivement, on voit bien les référendums avec le Brexit, etc. Il s'agit souvent de décisions qui sont plus émotionnelles, ça. Mmh. Néanmoins, l'idée profonde qu'il y a derrière le roman de la démocratie directe, c'est de dire une chose. En fait, la démocratie, ça a toujours été un processus qui donnait de plus en plus de confiance à la population et aux électeurs. Mmh. Au début, on ne faisait voter que les gens qui étaient riches, qui avaient des intérêts économiques.
Le
ou
vote
qui
plus
étaient
censitaire.
Ouais. Censitaire, le vote capacitaire, même avec les gens qui étaient diplômés. Puis après, on a dit, on va faire voter tout le monde. On a dit non quand même. On va faire voter les femmes. Oh, non quand même, les femmes c'est irrationnel, forcément. Finalement, on a toujours augmenté, si vous voulez, la confiance qu'on a donnée au peuple. Et je pense que maintenant, le constat qu'on fait d'une perte de confiance dans le système politique passe par une augmentation de nouveau de la confiance à faire au peuple en lui donnant plus souvent, même très régulièrement, la possibilité de prendre des décisions.
Alors, est-ce que ce roman, dont vous venez d'esquisser un peu le fond, je vais pas dire idéologique, mais enfin le fond de démocratie directe auquel on le voit bien, vous croyez, est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est un roman d'anticipation?
Alors, c'est plutôt une fable, parce que je n'ai pas joué au pronostic. La preuve, c'est que tout se passe dans le passé. Alors, certes, c'est le passé récent. Mmh. Mais je me suis plutôt posé la question, what if? Qu'est-ce qui se serait passé si? Et donc j'ai cherché à emprunter les chemins qu'on n'avait pas pris. En 2012, François Hollande n'est pas élu, vous voyez, dans le roman.
Oui.
Alors je sais bien sûr qu'il a été élu, donc il ne s'agit pas d'un pronostic, mais il s'agit de se dire, et est-ce que finalement, beaucoup de choses en démocratie ne sont pas possibles? Et le roman permet justement de raconter, de remettre ça en contexte. Alors je remets ça en contexte, 2010, 2011, la vacance de gouvernement en Belgique, l'énervement que ça a suscité. Et si plutôt que de seulement susciter un énervement, une frustration et un désir de renouvellement, si ça avait pris corps, si un mouvement citoyen avait pris corps, alors dans la réalité ça n'a pas eu lieu, mais dans le roman c'est l'occasion d'imaginer. Et si une révolution hyper démocratique avait eu lieu, dans la réalité ça ne s'est pas passé, dans le roman on peut. Alors est-ce que ça veut dire que ce serait possible pour plus tard? La démocratie, il ne faut surtout pas l'oublier, est le régime du possible, et l'avenir est tout sauf une fatalité.
Oui.
Et ça, c'est très important, à mon avis, de le souligner.
De l'écrire.
Et de l'écrire.
Oui. Vous dites, dans le roman, on peut écrire ça. Si on revient dans la réalité, on voit que, évidemment, vous l'avez dit, François Hollande est élu, on sort de cette grande frustration de presque 500 jours sans gouvernement avec une 6e réforme de l'État auquel personne ne comprend rien. On a eu le Brexit en Royaume-Uni, on a eu Trump, on a eu la montée de tribuns autoritaires, puisque populiste, c'est plus un mot qu'on peut, je pense, utiliser, c'est tellement généraliste, de propagandiste, et c'est un peu tout l'inverse de ce qui se passe dans votre livre. Le monde tel qu'il tourne, c'est pas le monde de la démocratie directe où les citoyens s'impliqueraient dans une certaine sagesse populaire.
Non, mais c'est d'ailleurs parce que je voyais le monde aller si mal que j'ai décidé d'écrire quelque chose qui irait en sens inverse.
Oui.
C'est devant le constat de cette tristesse que je me suis dit, faisons quelque chose de gai, de joyeux. Devant cet abandon du courage et ce fatalisme, écrivons un livre où les gens reprennent le goût de l'avenir. Alors, ce sont pas des vrais gens, puisqu'ils sont des personnages de romans, mais reprendre le goût de l'avenir. Considérer que l'avenir est une chose que l'on construit, que l'histoire est une chose dont nous sommes les auteurs responsables, il me semble que ce sont des idées qui sont totalement oubliées, perdues, mal vues, et qu'il est même presque insolent de les ramener. De nos jours, l'insolence a changé de camp. Vous voyez, quand vous êtes décliniste, vous êtes en fait dans la norme. Quand vous attaquez notre culture et notre société en disant qu'elle est mauvaise intrinsèquement, on considérera que vous êtes lucide.
Le pessimisme est devenu la norme.
Le pessimisme est devenu la norme. Si vous voulez, c'est l'époque de Baudelaire est révolue. On est retourné à l'époque de Rabelais où il disait « Je ne vois autour de moi que des gens graves et barbus et tristes. Alors moi, quand je vois ça, quand je vois votre mine, dit Rabelais au tout début de son œuvre, quand je vois le deuil qui vous mine, je veux écrire de sourire et de joie. » Et il nous fait l'œuvre qu'il nous a faite. Oui. Alors, il y a un petit peu cette attitude-là, cette attitude un peu provocatrice. Et si, nom d'un chien, tout allait bien, pourquoi pas? Et si nous avions envie de demain?
C'est pour ça que votre roman, vous dites fable, c'est pas une utopie, parce que l'utopie, elle est coupée de la réalité. Elle est hors sol, hors temps. Oui. Votre roman, il est pas hors sol, il est pas hors temps.
Non, au contraire.
Il prend racine dans le temps et dans l'époque, mais il la réinvente.
Oui, il revisite le passé. On appelle ça techniquement une uchronie, c'est-à-dire qu'on reprend des événements réels, une époque réelle, et simplement on la revisite. On emprunte, comme je disais, les chemins que finalement on n'a pas pris, mais qui auraient pu exister. On va voir les avenirs que nous n'avons pas bâtis. Alors bien sûr, c'est une façon aussi de faire penser, de faire circuler des idées, et surtout de rappeler que la démocratie est essentiellement, et à tout moment, à temps et à contre-temps, le domaine du possible.
Ouais. Alors, on va donner quelques exemples, parce que là, on reste un petit peu peut-être dans la théorie. Ouais. On va pas dévoiler tout votre roman, évidemment, Grégoire Paulet, mais deux, trois exemples. Qu'est-ce qui se passe quand votre héros, il s'appelle Rémi, arrive au pouvoir en Belgique? Après cette longue crise, il gagne les élections avec son mouvement, qui n'est pas un parti, parce que vous faites ça en dehors des partis. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne, par exemple, les décisions? Elles se prennent plus vraiment au Parlement, c'est dans des assemblées populaires. C'est comme ça que vous voyez l'avenir de la démocratie. Direct.
Alors, dans le roman, justement, c'est un peu une tactique aussi. Oui. On parle surtout de la révolution, c'est-à-dire de la montée de ce mouvement. Comment est-ce que ce mouvement, qui était d'abord concentré dans des quelques centaines, quelques milliers d'indignés sans pouvoir, comment est-ce que, par quels événements romanesques, justement, est-ce qu'il est parvenu à submerger véritablement la société? Et ça, je fais intervenir le fameux attentat. Je mélange toujours le réel et la fiction. Je fais intervenir le fameux attentat à Liège. Je donne à l'héroïne de la première partie un rôle tout à fait héroïque qui la transforme en un personnage extrêmement médiatique, et donc tous les messages qu'elle avait tout à coup sont diffusés sur toutes les télévisions.
Elle était un porte-parole du mouvement.
Elle devient un porte-parole parce qu'elle a été héroïque, etc. Et donc de cette façon-là, on voit comment, grâce aux médias, le mouvement est parvenu, contre toute attente, à devenir quelque chose de vraiment général.
Vous croyez à la sagesse populaire. Dans votre roman, bien sûr, ça se passe bien. C'est-à-dire que il n'y a pas de décisions, par exemple, xénophobes qui sont prises dans ces assemblées populaires. Vous dites que la sagesse s'y installe et qu'on est à chaque fois étonné de la capacité des citoyens à trouver des solutions que les politiques n'ont pas trouvées pendant des décennies. Il y a un constat fondamentalement optimiste de la capacité des citoyens à faire la démocratie directe chez vous.
Oui, il y a même un pari un petit peu excessif. C'est pour ça que je disais que c'est un roman. Il est très probable que ça ne se passerait pas aussi bien que ça. Ouais. Mais un idéal, ce n'est jamais quelque chose qui se réalise. C'est simplement une sorte de direction. C'est de croire qu'effectivement, le pire... C'est vrai que le pire n'est pas sûr, mais le pire n'est pas obligatoire du tout.
Et quand le pire n'est pas certain, si on veut reprendre la formule.
Oui, pardon, le pire n'est pas certain. Ouais. Si vous prenez une... la façon dont fonctionnent les citoyens en général dans une consultation populaire, il suffit de regarder les pays où ça se fait, par exemple, les décisions ne sont pas forcément mauvaises, la xénophobie ne domine pas forcément, les extrêmes ne dominent pas forcément.
Il y en a, mais comme il y en a aussi dans les systèmes représentatifs ou dans les parlements nationaux, où elle est représentée aussi parfois.
Non seulement il y en a, mais dans un système représentatif où la xénophobie, par exemple, est représentée, les représentants, les députés xénophobes, se sentent obligés de l'être très fort, tout à fait et tout le temps, parce que c'est leur électorat. Alors que ça ne représente qu'une facette de leur électorat. Oui. Moi, je connais des gens dont je ne sais pas ce qu'ils votent, je peux le soupçonner, etc., mais qui, par ailleurs, sont des gens qui ne sont pas 100% xénophobe, alors que le député, lui, se sent obligé de représenter entièrement son électorat. Donc vous voyez, il y a toute une série d'effets pervers qui pourraient être également dilués ou assouplis dans une démocratie beaucoup plus directe et beaucoup plus transversale.
Vous ne croyez pas, vu le contexte maintenant politique, on parle de Publifine depuis des mois en Belgique, mais en France, on voit bien avec l'affaire Fillon que c'est le même contexte où on parle des affaires, on parle plus des idées tellement en politique. Vous croyez plus à la politique de métier?
Je pense que la politique et la démocratie doivent s'adapter à son temps. Nous étions naguère dans un système beaucoup plus vertical et ça convenait d'avoir un chef qui décide et qui même fait des petits arrangements et on le comprend, c'est sa façon. Maintenant, nous sommes dans une société beaucoup plus horizontale, beaucoup plus transparente, beaucoup plus informée et toutes ces choses-là qui auparavant nous paraissaient pas si graves, aujourd'hui nous scandalisent profondément. Et donc, il faut qu'effectivement la politique et la démocratie s'adaptent à cette nouvelle façon de voir le monde qui est partagé par les citoyens. Et effectivement, ces arrangements, cette opacité, cette professionnalisation, cet art de devoir se faire réélire engendre maintenant la suspicion, alors qu'auparavant pas. Donc il faut forcément qu'elle s'adapte, et il faut notamment que cette obsession de la réélection, c'est-à-dire un petit peu la politique professionnelle, effectivement, cède le pas.
Il y a parfois, dans le propos de vos héros, dans votre roman, un antipolitisme. Grégoire Paulet, vous l'assumez ça radical, où vous dites bah, finalement on peut s'en passer de ces gens.
Oui, alors ça c'est pour ça d'ailleurs que c'est un roman et pas un essai. Je lisais l'autre jour le fameux essai de David Van Reybrouck contre les élections. Là c'est un essai, alors il est beaucoup plus modéré. Moi comme je suis dans un roman, peux y aller. Je peux dire, eh bien voilà, il vaut mieux un peu exagérer dans un sens à l'intérieur d'un roman pour faire passer l'énergie.
Oui. Mais vous croyez qu'on aura toujours besoin, est-ce que vous croyez un renouveau du politique qui passe par le politique ou est-ce que d'office ce sera par les citoyens, ce sera la dernière question?
Je pense que d'office ça devra passer par les citoyens, d'office, ne fût-ce qu'en partie. Il y a une redistribution des compétences et du pouvoir qui est indispensable.
La démocratie, ne l'oublions pas, c'est le régime du possible, c'est parce que je voyais que le monde allait si mal que j'ai décidé d'écrire quelque chose qui allait en sens inverse. On a oublié que l'histoire est quelque chose dont nous sommes les auteurs et si, nom d'un chien, tout allait bien. Déclaration ce matin de Grégoire Paulet qui est venu à l'occasion de l'ouverture de la Foire du Livre et qui sort le livre Tous sur la démocratie directe.
C'est édité paru chez Gallimard.
Chez Gallimard.